Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, bienvenue, merci d'être au rendez-vous. Nous allons revivre 7 jours d'actualité grâce au reportage de la rédaction. C'est une des dernières fois que nous le faisons, car l'émission va s'arrêter à la fin du mois. La fin d'un voyage radiophonique qui a commencé en 1996. 28 ans d'événements traités par plus d'un millier d'invités. Nous n'avons pas vu le temps passer. Continuez à nous dire depuis quand vous écoutez l'émission. Merci déjà pour vos très nombreux messages. Cette émission sera parsemée de quelques-uns d'entre eux. Cette semaine, pour la dernière fois donc, dans cette émission, nous allons écouter le commentaire de notre invitée, Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit, notre revue partenaire que nous retrouverons désormais dans notre magazine Idées. Bonjour Anne-Lorraine Bujon.
Bonjour Pierre-Édouard.
Merci d'être à ce micro, donc pour la dernière fois dans une semaine d'actualité, car l'émission va bientôt donc s'arrêter, mais à bientôt dans l'autre émission qui s'appelle Idées, dans laquelle vous reviendrez chaque mois pour parler soit du dossier, soit du contenu de toute façon de la revue. On ne va pas vous lâcher comme ça.
Et nous avons en commun cet intérêt pour les idées à une juste distance de l'actualité. Donc je suis sûre qu'on trouvera la formule.
J'en suis persuadé. Commençons, Anne-Lorraine, avec un moment important cette semaine au Parlement européen. Les députés ont adopté la première loi au niveau mondial sur l'intelligence artificielle. Le texte adopté mercredi doit garantir la fiabilité de l'intelligence artificielle, mais aussi et surtout sa sécurité et le respect des droits fondamentaux, sans pour autant freiner l'innovation. Romain Lemaresquier.
Son adoption ne faisait aucun doute, car les députés européens étaient unanimes sur le fait qu'il fallait légiférer dans un domaine qui va prendre une place considérable dans les années à venir. La seule question qui divisait était le risque que cette loi ne soit un frein à l'innovation. Mais un compromis a été trouvé, comme le détaille Sylvie Guillaume, députée européenne, membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates.
Je crois qu'il y a eu à un moment donné un choix qui devait être fait pour aboutir à cette régulation. C'était soit on est extrêmement précis sur la régulation et vraiment on va dans tous les détails, mais en même temps la technologie évolue tellement vite qu'on risque d'être en retard sur la technologie elle-même, donc être un peu vain dans ce processus, ou bien on est effectivement dans un processus de réglementation précis mais large et on peut agir tout de suite. Et je crois qu'il fallait donner ce signe effectivement d'être les premiers à réagir en la matière au plan européen et donner un peu le là pour la suite et pour le reste du monde.
Désormais adopté, ce texte pourrait faire des émules, comme l'explique Sylvie Guillaume, car les règles édictées dans cette loi, les interdictions et les garanties que doivent apporter les développeurs d'intelligence artificielle n'existent nulle part ailleurs à l'heure actuelle. Et ces règles sont indispensables pour la sécurité des citoyens, le respect de leurs droits et pour éviter des dérives dans l'emploi de ce nouvel outil.
Comme promis, quelques premiers messages. Je salue trois auditeurs qui nous écoutent depuis 18 ans, eux, Sita à Sikasso au Mali, Innocent et Géraldine, sans oublier le club RFI de Chypre. D'autres messages tout à l'heure. Anne-Lorraine Bujon, donc le numéro d'Esprit de ce mois-ci, du mois de mars, s'intéresse à une question grave: justice ou réparation ?
Justice.
C'est une réflexion sur la justice.
C'est une réflexion sur la justice et c'est une réflexion sur la réparation et c'est une réflexion sur la possibilité que nous avons de les croiser ou non. Donc c'est un très beau dossier qui a été coordonné par la philosophe Justine Lacroix et la politiste Valérie Rozou, deux collègues et amis belges. Et elles partent de cette idée que nos sociétés sont traversées par des demandes de réparation dans une série domaines, demandes de réparation de soi psychique, de reconstruction, et que cette demande de réparation est souvent adressée à la justice, mais y compris à la justice pénale ordinaire, dans des cas aussi différents que les procès pour terrorisme, que des procès pour violences sexuelles ou que des grands procès pour l'histoire. Valérie Rozou a participé par exemple à la commission parlementaire sur le passé colonial belge et la demande de réparation des victimes de descendants donc de colonisés par la Belgique. Et donc elles interrogent la capacité que la justice a ou non de répondre à ces demandes de réparation. En insistant sur le fait que réparer n'est pas restaurer, qu'il y a tout un tas de situations dans la vie où on ne peut jamais revenir à la situation d'avant l'injustice, et qu'il faut commencer par prendre conscience de cela, qu'il y a parfois de l'irréparable, pour poser ensuite la question de comment est-ce qu'on peut reconstruire. Mais c'est aussi une façon d'interroger d'autres formes de justice qui se développent à côté de la justice pénale, précisément, comme la justice restaurative, dont on a parlé notamment à l'occasion du succès du film « Je verrai toujours vos visages », ou la justice transitionnelle, qui est pratiquée précisément après des situations de violence extrême ou de crimes de masse.
On reviendra sur cette notion de justice restauratrice, car Antoine Garapon y consacre un article dans la revue. C'est aussi une réflexion, Anne-Lorraine, sur la notion de victime.
Oui, la place en fait croissante que prennent les victimes dans notre société, une place qui est saluée par certains, pour dire vite, les victimes ont à présent droit à une meilleure reconnaissance. Et dans le cas, par exemple, des procès du Bataclan qui se sont déroulés pendant presque 2 ans à Paris, enfin, ou peut-être que ça m'a semblé long, mais on sait qu'on a beaucoup donné de place au récit des victimes. Dans l'idée que ça les aiderait peut-être à surmonter leur traumatisme. Et donc certains se réjouissent de cette reconnaissance nouvelle de la place de la victime, quelque chose qui est rendu possible par le système judiciaire français, ce qui n'est pas le cas partout à travers le monde. Mais cette place accordée aux victimes, elle a aussi ses limites. Justine Lacroix, mais aussi Sandrine Lefranc dans un autre texte, et Valérie Rozou pointent qu'il y a aussi un danger à enfermer les gens dans leur rôle de victime. Enfin, quand on est placé dans ce rôle pour faire reconnaître le tort qui vous a été fait, il y a toujours aussi ce risque que ça vous fossilise, que ça vous fige dans cette posture de victime. Et Justine Lacroix, dans son texte, souligne quand même que le procès pénal est toujours une épreuve pour tout le monde.
De toute façon, oui. Voilà. Et Justine Lacroix, d'ailleurs, qui était venue dans Idée et avec laquelle nous avions parlé des attaques contre les droits de l'homme. C'est un de ses sujets de recherche.
Une semaine d'actualité.
Et partons pour Haïti. Anne-Lorraine, le Premier ministre haïtien Ariel Henry a donc démissionné. Il faut dire que la pression montait depuis quelques jours, depuis qu'il s'était retrouvé bloqué à Porto Rico sans pouvoir entrer à Port-au-Prince et que la violence était déchaînée dans le pays. Rapidement, la communauté des États Caraïbes a lâché le Premier ministre haïtien et le Canada ainsi que les États-Unis se sont rangés à leur avis. À New York, Carrie Newton.
Avant qu'il n'annonce sa démission, la CARICOM, Washington et Ottawa ont réussi à convaincre Ariel Henry qu'il fallait mettre en place une transition crédible. Et c'est effectivement ce qu'il a fait en annonçant la dissolution de son gouvernement. L'accord de gouvernance transitoire doit ouvrir la voie à une transition pacifique du pouvoir, avec à moyen terme des élections libres et équitables. Anthony Blinken a déjà proposé la création d'un collège présidentiel indépendant, un concept encore flou. Il va aussi falloir des moyens pour assurer cette transition. Le chef de la diplomatie américaine a annoncé une aide supplémentaire de 130 millions de dollars, 30 millions pour une assistance humanitaire immédiate et 100 millions de plus pour la fameuse force multinationale. Mais comme les 200 premiers millions n'ont toujours pas été débloqués par le Congrès américain, on peut légitimement se demander comment Anthony Blinken va en dégager 100 de plus, avec pour l'instant un peu moins de 11 millions rassemblés dans le fonds pour la force multinationale. Son budget est loin d'être bouclé.
Le déploiement des policiers kényans en Haïti est mis en pause. Le Kenya s'apprêtait à envoyer 1000 hommes sur l'île pour y prendre la tête d'une mission multinationale afin d'appuyer la police locale à faire face aux gangs. Vous le savez, Nairobi attend désormais la fin de la transition. Anne-Lorraine Bujon, vous souhaitiez dire un mot sur ce qui se passe
Juste, ce qui me frappe avec ces nouvelles terribles qui reviennent d'Haïti, c'est que j'ai le sentiment qu'on paye là aussi une prise de conscience de l'échec des interventions internationales qui ont pu être menées à différentes parties du monde et dont on a estimé récemment qu'elles étaient presque toutes des échecs ou en tout cas des échecs partiels et qu'ici sur la situation sécuritaire qui se dégrade terriblement en Haïti mais depuis déjà quelques années, on a au contraire eu plusieurs appels au secours, plusieurs cris d'alerte et d'alarme demandant une force d'interposition internationale. Précisément, je me souviens que nous-mêmes avions publié une tribune du docteur Pape, qui est médecin à Haïti, et qui demandait que la communauté internationale intervienne, et que là, au contraire, on a fait preuve d'une trop grande retenue. Donc, dans tous ces débats qu'il y a toujours sur l'interventionnisme excessif, je me dis oui, alors il y a un coût de l'intervention, mais il y a aussi un coût terrible, terriblement lourd parfois, de la non-intervention. Quand les situations se dégradent à toute allure.
Et parfois même les interventions échouent, parce qu'il y a eu déjà une intervention des Nations Unies en Haïti qui s'est mal terminée à cause de problèmes de choléra.
Sept jours dans le monde.
Anne-Lorraine Bujon, Open Arms était attendu à Gaza hier, on vous en parle dans nos journaux. Parti de Chypre, ce navire transporte environ 200 tonnes de vivres, riz, farine et conserves pour la population de l'enclave palestinienne. En parallèle, plusieurs pays poursuivent le parachutage de colis alimentaires à Gaza, mais ces opérations à la logistique complexe ne peuvent se substituer à la voie terrestre, martèle l'ONU. La population de Gaza, en tout cas, est au bord de la famine, reportage de Rami Al-Megari avec Sami Bourrelifa à Jérusalem.
Allongée dans les bras de sa mère, la petite Lynn est épuisée. La nourriture est rare, l'enfant n'a pas mangé depuis 24 heures. Et ce n'était même pas un vrai repas, confie Jamila à sa mère.
C'était une pomme de terre, une seule. C'est ma voisine qui nous l'a donnée. C'est vraiment histoire de dire qu'on a mangé. Parfois, ma sœur ou d'autres voisins nous aident. Ils nous donnent de l'eau et du pain. C'est mieux que rien.
La petite a 6 ans. Son père, Mahmoud, est révolté par cette situation. Il en veut aux Israéliens, mais pas seulement.
La petite souffre de malnutrition et même l'eau que nous avons n'est pas potable. C'est une eau saumâtre. Comment la soigner? Je cours d'un hôpital à l'autre sans résultat. Personne ne parvient à nous aider. Elle pourrait mourir à n'importe quel moment. On est à la merci des escrocs qui s'accaparent l'aide alimentaire gratuite et qui la revendent à la population. On est à la fois opprimés par ces escrocs et par les Israéliens qui nous font la guerre.
Dans la bande de Gaza, la situation est chaotique. L'effondrement de l'autorité du Hamas laisse place à l'anarchie. Des gangs mettent la main sur les colis alimentaires parachutés et les revendent au prix fort à la population.
Alors donc, que la guerre se poursuit à Gaza, pour le Ramadan, les Palestiniens de Jérusalem-Est sont autorisés à aller prier librement sur l'esplanade des mosquées. En revanche, les autorités israéliennes prévoient des restrictions d'accès pour les habitants de Cisjordanie occupée. Reportage à Hébron, autre lieu de tension entre Palestiniens et Israéliens, avec Muriel Paradon.
Des Palestiniens s'entassent dans un tourniquet de sécurité pour accéder à la mosquée Ibrahim, qui est aussi le tombeau des patriarches pour les Juifs. Les fidèles musulmans doivent subir de nombreux contrôles de l'armée israélienne s'ils veulent aller prier. Ce n'est pas nouveau, mais la situation a empiré depuis le 7 octobre, explique Ahmed.
C'est toujours comme ça, il faut enlever sa ceinture et tout ce qu'on a sur nous. Mais là, c'est encore plus pénible qu'avant.
La tension est forte à Hébron, autour de lieux saints à la fois pour les juifs et les musulmans, mais aussi à cause des colons israéliens installés en plein centre historique et qui rendent la vie des Palestiniens palestiniens de plus en plus difficiles, témoigne Mohamed.
Les tensions se sont renforcées depuis le 7 octobre avec les colons, surtout dans la vieille ville d'Hébron. Alors les gens évitent de venir car ils ont peur.
Durant Ramadan, beaucoup d'habitants d'Hébron ne pourront pas non plus aller prier à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Les Israéliens prévoient des limites d'âge pour les habitants de Cisjordanie occupée. Pas d'accès pour les hommes de moins de 55 ans lors de la grande prière de vendredi, explique Taher. Lui, à 36 ans, il est en colère.
Ce sont des lieux pour les musulmans, que ce soit Al-Aqsa ou la mosquée Ibrahim. On ne peut pas y aller librement. Ça nous touche forcément.
Des restrictions vécues comme une injustice de plus par les Palestiniens en ce mois de Ramadan.
À suivre évidemment dans nos journaux, suite d'une semaine d'actualité avec notre invitée Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit qui consacre son dossier du mois à la justice avec ce titre « Justice ou réparation ». Et au tout début, Anne-Lorraine, de ce numéro d'Esprit, de Point de Mars, un article de l'anthropologue Véronique Naoum-Grapp sur justement l'usage, je reprends son titre, « Politique de la cruauté ».
Oui, Véronique Naoum-Grapp a beaucoup travaillé sur la question de la vengeance et des logiques vindicatoires. Et dans ce texte qui est à la fois beau et terrible, elle rappelle effectivement qu'il y a des situations où on fait un usage de la torture, de la cruauté, de traitements inhumains que l'on fait subir à des personnes. Et que c'est bien ce qui s'est passé en fait avec les attaques du Hamas le 7 octobre en Israël, où non seulement des atrocités ont été commises, mais elles ont été filmées exprès pour être vues. Et donc, elle écrit « provoquer une réaction de douleur, fureur, et donc l'entrée en guerre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, c'était le but premier de l'attaque du 7 octobre. » Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, 6 mois plus tard, c'est que ça a réussi au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, et que cette mécanique effectivement de violence, de mort, de destruction s'est mise en place et qu'on ne sait pas quand et comment ça va pouvoir s'arrêter, ce qui est absolument terrible, parce que cet usage premier de la cruauté a déclenché cette réaction d'horreur, fureur, qui tient aussi de la logique vindicatoire, mais dont on ne voit pas maintenant ce que cette guerre pourrait produire d'autre que de la haine et du ressentiment accumulé sur plusieurs générations. Donc cet entêtement, cette fuite en avant du gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui au passage essaye de sauver sa propre peau dans un cynisme absolu, il faut qu'elle s'arrête. On ne comprend pas comment elle pourrait déboucher pour une paix, donc ni pour le peuple palestinien, ni pour le peuple israélien. Donc cet enchaînement a quelque chose de proprement tragique.
Continuons à feuilleter les pages de l'actualité de cette semaine, Anne-Lorraine, et partons pour un pays que vous connaissez bien, les États-Unis. Aux États-Unis, où le match retour Biden contre Trump se confirme après une nouvelle journée d'élections primaires mardi, notamment en Géorgie, les deux candidats ont donc obtenu le nombre de délégués suffisant, largement, pour obtenir l'investiture de leur parti. Ils s'affronteront donc en novembre prochain pour la présidentielle. Correspondance de David Thompson.
L'affiche du duel présidentiel ne faisait plus aucun doute, elle se confirme désormais mathématiquement. Après cette nouvelle journée de primaires républicaines et démocrates, Joe Biden et Donald Trump obtiennent chacun le seuil de délégués nécessaire pour être investis candidats par leur parti durant les conventions qui auront lieu cet été. Cela signifie que la campagne présidentielle entre Joe Biden et Donald Trump peut désormais commencer pour de bon, et ce même si une majorité d'Américains ne veulent pas de ce match au retour. Plusieurs États votaient ce mardi, dont la très stratégique Géorgie, c'est l'un de ces fameux États clés décisifs pour gagner une présidentielle américaine. Un État bascule remporté par Trump en 2016, mais par Biden en 2020 sur le fil avec un peu moins de 12 000 voix d'avance. Ces mêmes 12 000 voix que Donald Trump avait demandé aux responsables locaux de lui trouver pour inverser le résultat de la présidentielle dans un coup de fil désormais célèbre aux États-Unis. Appel qui lui vaut aujourd'hui d'être poursuivi par la procureure d'Atlanta pour avoir tenté de confisquer l'élection présidentielle de 2020.
D'autres messages d'auditeurs qui nous ont écrit à l'occasion de la suppression prochaine de l'émission. Je salue maintenant Day à Kinshasa, à l'écoute depuis 15 ans. Bourgeois depuis 12 ans à Pala, au Tchad. Souleyman depuis 2011 à Abidjan. Et Armel à Cotonou, à l'écoute, lui, depuis 18 ans. Suite d'une semaine d'actualité. Je vous voyais absolument consterné en écoutant cette correspondance de David Thompson, vous qui suivez la vie américaine avec à la fois expertise et passion.
Alors je crois qu'on suit tous de près ce qui se passe aux États-Unis avec le sentiment que ça nous concerne tous parce que ça aura des conséquences sur le reste du monde. Et avec, c'est vrai, beaucoup d'interrogations. Toujours, on est maintenant 6 ans ou 7 ans après la première élection de Donald Trump et toujours cette question. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là et une sorte d'incrédulité par rapport à ce qui se joue sous nos yeux. Et ici, donc voilà, on a ce paradoxe, deux candidats qui sont assurés très tôt, en fait, dans la campagne des primaires, d'être investis par leur parti, ce qui est rare, hein, que déjà, si vite après le Super Tuesday, on sache qui vont être les candidats. Et en fait, deux candidats très impopulaires, en fait, deux candidats qui posent problème, chacun au sein de leur propre parti et au-delà chez ces indépendants, dont on sait qu'ils déterminent aussi les élections aux États-Unis. Deux candidats très âgés, dans un pays très jeune et dynamique. Donc, beaucoup de paradoxes et les électeurs américains qui ne voulaient pas de ce match retour. Et donc, une élection qui risque de se jouer sur la mobilisation ou la non-mobilisation de ceux qui ne veulent surtout pas d'un retour de Trump au pouvoir ou de ceux qui pensent que Biden est décidément trop âgé pour s'engager dans un deuxième mandat. Maintenant, quand on a l'habitude d'observer des élections aux États-Unis, il faut toujours rappeler que le mois de novembre, c'est loin, qu'il peut encore se passer beaucoup de choses, que Trump a plusieurs procès en cours, que pour l'instant, ça n'a pas l'air de le desservir, en tout cas auprès de son électorat le plus fidèle.
C'est ça qui paraît incroyable, d'ailleurs. C'est vraiment l'ex-président Teflon, hein. Tout glisse sur lui.
Oui, ou renforce un sentiment de défiance à l'égard des institutions dans une partie de l'électorat américain, mais une partie seulement. Et donc, encore une fois, plutôt au centre, chez les indépendants, que se passerait-il si ce président était vraiment condamné ? Puisqu'on sait que ces procès concernent des choses très variables, du harcèlement sexuel à l'escroquerie, à la fraude, à la tentative d'insurrection au Capitole. Et donc, quand même, l'électeur américain ordinaire, monsieur tout le monde, l'homme de la rue, est-ce que ce ne serait pas quand même un repoussoir, ce président multi-condamné, si c'était le cas d'ici là? Mais c'est pourquoi je dis il peut se passer beaucoup de choses en quelques mois.
Une semaine d'actualité.
Anne Lorraine, l'opposant Léonid Volkov, un proche d'Alexeï Navalny, a été agressé au marteau mardi soir à Vilnius. Il a trouvé refuge dans la capitale lituanienne depuis quelques années. Jusqu'en 2023, il présidait la Fondation pour la lutte anticorruption de l'opposant russe, mort il y a près d'un mois en prison à Vilnius mercredi. Marielle Vituro.
Léonid Volkov a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans la nuit. De retour chez lui, il a le bras dans le plâtre. Il affirme avoir reçu une quinzaine de coups de marteau sur les jambes et il désigne Poutine comme le responsable de cette agression. Ce matin, à la radio publique, un commissaire de police a indiqué que l'agresseur n'avait pas encore été retrouvé. La plus forte réaction a été pour l'instant celle du ministre des Affaires étrangères, Gabrielus Landsbergis, sur le réseau X. La nouvelle de l'agression est choquante. Les agresseurs devront répondre de leurs crimes, a-t-il écrit. Mardi, dans la journée, Léonid Volkov avait donné une interview presque prémonitoire aux médias d'opposition russe Medusa en disant que le principal risque aujourd'hui est que nous soyons tous tués. Ces 10 dernières années, Vilnius accueille de très nombreux opposants russes mais aussi biélorusses et parmi eux, une certaine inquiétude règne. L'un d'entre eux m'a dit qu'il ne pouvait plus se sentir en sécurité. En Europe. La semaine dernière, les services de renseignement lituaniens ont publié leur rapport annuel et ont pointé du doigt le risque d'attaques hybrides de la part de la Russie sur le territoire lituanien.
Alors que se déroule ce week-end l'élection présidentielle russe, élection présidentielle entre guillemets, les forces ukrainiennes semblent avoir décidé d'y jouer un rôle à leur façon en imposant à l'armée russe des combats sur le territoire même de la Fédération de Russie à Kiev. Explication de Stéphane Sioran, mercredi.
Depuis mardi, trois groupes de volontaires russes, la Légion Liberté de la Russie, le Corps des volontaires russes et le Bataillon sibérien, semblent avoir engagé le combat avec les forces de police et les soldats russes dans la région de Koursk où les volontaires russes d'opposition déclarent avoir pris le contrôle de la petite ville frontalière de Tiotkino. Il est difficile de vérifier de manière indépendante l'ampleur de ces combats, mais plusieurs vidéos attestent le passage en Russie de groupes armés et de blindés, tandis que mardi, un drone ukrainien s'est abattu sur la mairie de Belgorod, l'autre capitale russe régionale frontalière. Mercredi matin, Denis Nikitin, un des commandants du Corps des volontaires russes, une formation nationaliste, a déclaré dans une interview que l'objectif des opérations en cours était d'empêcher la tenue du scrutin présidentiel russe dans les régions frontalières avec l'Ukraine, afin de décrédibiliser cette élection visant à relégitimiser Vladimir Poutine. Pour la seconde nuit consécutive, l'Ukraine a également opéré à une vague massive de bombardements de raffineries russes par l'intermédiaire de drones. Ces attaques se sont déroulées dans 5 régions russes dans la nuit de mardi à mercredi, mettant partiellement à l'arrêt la production de certaines raffineries. Un autre moyen de mettre le Kremlin sous pression avant le scrutin de ce week-end.
La situation est à suivre dans nos journaux. Scrutin de ce week-end, Anne-Lorraine, qui pour le moins n'a aucun intérêt. En fait, on connaît la fin de l'histoire.
Une mascarade, effectivement, une parodie d'élection auquel personne ne croit vraiment, mais avec là aussi cette accélération terrible, en fait, d'un pouvoir qui ne cache même plus sa brutalité. On sait que cette séquence électorale s'est ouverte par l'assassinat d'Alexei Navalny dans la prison à haute sécurité où il se trouvait au-delà du cercle polaire. Et donc maintenant, on voit que ça se poursuit avec ces attaques d'autres opposants dont il faut saluer le courage. Et donc, je, une fois n'est pas coutume, je vais faire de la publicité à d'autres médias et confrères, parce que Libération a pu faire un entretien avec Ilya Yashin, qui est un autre opposant russe en prison. Entretien remarquable parce qu'il témoigne du courage et de la détermination, en fait, de ses opposants, qui sont sans illusion sur le fait qu'ils peuvent tous être liquidés d'un instant à l'autre.
Pouvoir qui semble un peu nerveux, malgré tout, parce que la veuve d'Alexei Navalny a proposé aux électeurs russes d'aller voter dimanche midi, de se rendre devant les isoloirs dimanche midi, pour voter évidemment pour le candidat de leur choix, sauf évidemment Poutine. Et le pouvoir russe a répondu en disant qu'il ferait attention à la fréquentation des bureaux de vote à midi dimanche.
C'est aussi ce que nous disait, je crois, la mort d'Alexei Navalny. C'est que même en prison, il continuait d'inquiéter le pouvoir, précisément parce que il représentait cette opposition qui ne veut pas plier. Et ce message de vote tout sauf Poutine, c'est bien Alexei Navalny qui l'avait fait circuler depuis sa prison.
Et les fonctionnaires ne pourront pas aller voter dimanche à midi.
Ce qui prouve que tout cela inquiète quand même un peu le pouvoir.
Alors en France, les députés ont débattu pendant plus de 3 heures mardi du soutien du pays à l'Ukraine avant d'adopter l'accord de sécurité signé entre Paris et Kiev le mois dernier. Accord qui prévoit notamment jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide supplémentaire à l'Ukraine, donc en 2024, dans un contexte où Emmanuel Macron n'exclut pas l'envoi de troupes françaises sur le territoire ukrainien. Et comme prévu, ce débat a donné lieu à un affrontement entre le gouvernement et le Rassemblement national. Pierrick Bonneau.
Même si ce n'est pas l'objet du vote des députés appelés à se prononcer sur un accord bilatéral, le débat tourne autour des propos du chef de l'État fin février, le patron du Parti communiste, Fabien Roussel.
Les déclarations va-t-en-guerre du président de la République sur l'envoi de troupes françaises en Ukraine ont choqué fortement nos compatriotes.
Les communistes comme les insoumis votent contre, les députés du RN s'abstiennent et dès le début du débat, ils sont dans le viseur du Premier ministre Gabriel Attal.
Voter contre, c'est remettre en cause le travail et les efforts accomplis par la France et ses alliés depuis 2 ans. S'abstenir, c'est fuir. Fuir ses responsabilités devant l'histoire. Trahir ce qui nous est de plus cher depuis le 18 juin 1940, l'esprit français de résistance.
Réponse très politique de Marine Le Pen qui dissèque à la tribune l'accord signé avec l'Ukraine, puis conclut.
Vous avez détourné, exploité, instrumentalisé une crise internationale majeure pour la mettre au service d'un agenda électoraliste de court terme, mais pour manifester notre soutien à l'Ukraine. Et uniquement pour cela, nous nous contenterons d'une abstention.
Avec un soutien des LR, des socialistes et des écologistes, l'accord signé par Emmanuel Macron est largement adopté. Un vote symbolique, le gouvernement n'était, quoi qu'il arrive, pas obligé d'en tenir compte.
Emmanuel Macron, justement, était l'invité du journal de 20h sur TF1 et France 2 jeudi soir. Une interview consacrée quasi exclusivement à la guerre en Ukraine. Il a voulu expliquer lui-même aux Français les enjeux de ce qu'il considère comme une menace existentielle, entre guillemets, à l'occasion de cet entretien. Valérie Grasse.
C'était une opération pédagogie pour Emmanuel Macron, critiqué depuis des jours pour avoir évoqué la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Dans la salle des fêtes de l'Élysée, face à deux journalistes, le chef de l'État a assumé.
Il y a entre Strasbourg et Lviv moins de 1500 kilomètres. Donc ça n'est pas une fiction et ça n'est pas loin de nous. Toutes ces options sont possibles. Le seul qui en aura la responsabilité, c'est le régime du Kremlin.
Face à un Vladimir Poutine jugé en pleine dérive autoritaire et répressive, Emmanuel Macron ne voit qu'une seule option, empêcher la Russie de remporter la victoire.
Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucun de ses engagements, s'arrêterait là.
Emmanuel Macron a voulu alerter les Français et apparaître à la hauteur des enjeux.
Ma responsabilité, c'est la sécurité des Français et la défense nationale. Et notre sécurité se joue aussi en Ukraine aujourd'hui.
Une manière de critiquer sans les nommer ses adversaires du Rassemblement national et de la France insoumise qui n'ont pas soutenu l'accord de sécurité avec l'Ukraine.
Choisir de s'abstenir ou de voter contre un soutien à l'Ukraine, c'est pas choisir la paix. C'est choisir la défaite, et c'est très différent.
Face à la menace russe, Emmanuel Macron tente d'incarner un rempart.
À noter aussi dans l'actualité française, la disparition de Philippe de Gaulle, le fils du général de Gaulle. Il avait 102 ans, un hommage national lui sera rendu la semaine prochaine. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, l'Ukraine a dominé l'actualité française cette semaine avec ses propos, toujours ses propos d'Emmanuel Macron.
Oui, l'Ukraine a dominé l'actualité française et je crois que chacun des mots est important ici. Ces déclarations du président Macron qui ont été abondamment commentées, je crois qu'elles témoignent d'abord d'une inflexion de la politique diplomatique, militaire, de sécurité et de défense de la France et donc d'une prise en compte, d'une prise de conscience de ce que la menace russe est effectivement existentielle et que la Russie doit être défaite en Ukraine. Et si on se réjouit pour notre part hein, à la revue Esprit de ce durcissement du ton, de cette prise de conscience qu'il n'y a rien à négocier avec la Russie, qui ne respecte aucun des engagements internationaux qu'elle a pris, et que si nous ne sommes pas en guerre directement contre la Russie aujourd'hui, elle nous a bien désignés comme ennemis, comme on le voit avec le déclenchement de nombreuses cyberattaques et la volonté de faire ingérence dans notamment les élections européennes qui vont se dérouler début juin. Donc la Russie nous a désignés comme ennemis, elle se méfie de la contagion démocratique et en effet l'Union européenne ne sera pas en paix si elle n'est pas défaite. Ça, pour nous, c'était très important que le président puisse le dire clairement. Maintenant, il y a aussi évidemment un caractère contre-productif à toutes ces déclarations. Le premier, c'est ce sentiment qu'au moment où on aurait besoin d'une Union européenne très unie, très solidaire, qui puisse tenir tête comme un seul homme à la Russie. Ces déclarations ont pris des partenaires par surprise.
Ont divisé.
Voilà, et elles ont divisé, ou en tout cas, elles ont contribué à donner une image de désunion qui, naturellement, a été exploitée par la propagande en face dès que possible. Et puis, il y a aussi cette impression persistante et qui, moi, me met un peu mal à l'aise, qu'on assiste là, en même temps, à l'entrée en campagne, justement en amont des élections européennes et à la volonté de s'emparer de ce sujet du soutien à l'Ukraine comme un sujet de différenciation avec le Rassemblement national, que le Rassemblement national ait fait preuve de complaisance coupable à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine, non pas une, mais deux, trois, dix fois, ça c'est certain. Mais le sujet, justement, me paraît trop sérieux pour qu'on puisse avoir à se poser la question de ce que cherche exactement le président de la République quand il fait ces déclarations-là à ce moment-là.
Est-ce que le résultat, c'est qu'en France, une inquiétude est née réellement dans la population, avec ces propos sur l'envoi éventuel de troupes, de soldats français, en tout cas en Ukraine?
Alors là, il y avait sans doute une clarification nécessaire sur le fait qu'il ne s'agissait pas effectivement d'envoyer des soldats faire la guerre en Ukraine.
C'est ce qui a été expliqué après.
Voilà, en fait. Mais plutôt des équipes de formation à l'usage de matériel militaire que nous envoyons en Ukraine. Mais en quelque sorte, le mal était fait une fois que le mot « troupe » avait été lâché. Or, ça n'est pas de ça qu'il s'agit. Que la guerre inquiète, c'est bien normal, mais cette guerre, ce n'est pas nous qui l'avons choisie, encore une fois. Et donc, je crois qu'il faut aussi être lucide sur ce qui nous menace.
Alors, à noter, et là je reviens à la revue Esprit de ce mois-ci, Anne-Lorraine, à noter que vous consacrez quelques articles à la France, comme d'habitude, à la crise des agriculteurs, à la notion d'ordre aussi, avec Sébastien de Rochet, le spécialiste, qui parle de racisme endémique de la police, qui va, une phrase qui risque de provoquer un débat. Et l'éditorial est consacré à la notion de normes en France. On sait que les agriculteurs, pour ne parler que des agriculteurs, critiquent de plus en plus les normes qui leur sont imposées. Vous, vous dites dans l'éditorial qu'il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, si je puis m'exprimer ainsi.
Oui, ce mouvement de colère des agriculteurs nous paraît évidemment très significatif, très symptomatique, et d'autant qu'il n'est pas limité à la France, qu'on peut parler d'une sorte de mouvement social européen, précisément en amont de ces élections. Mais il est vrai que quand on a entendu les agriculteurs se plaindre du poids des normes bureaucratiques, spontanément, je pense qu'on est tous d'accord avec eux, parce que, en fait, dans nos vies ordinaires, on a tous l'impression de crouler sous un grand nombre de normes, de standards, et je pense, pour ma part, que le numérique a encore beaucoup aggravé les choses. C'est vrai que les portails, les identifiants, donc tout a l'air standardisé, coté, donc on peut tous tomber d'accord sur le fait que trop de normes, c'est insupportable, et que ça nous empêche de faire nos métiers comme on souhaiterait les faire. Et ce qui est un peu dangereux, c'est la confusion entre la norme et la loi. Et sur le cas de l'agriculture précisément, est-ce qu'on a suffisamment rappelé dans toute cette séquence ce que visaient ces normes ? Elles ne sont pas là pour le plaisir d'asticoter les gens. Elles sont là parce qu'on a une transition écologique à réaliser et que l'urgence est là. Donc les normes, en général, elles correspondent à une application d'une loi qui, elle, est bien le fruit d'une volonté générale et d'une vision politique. Et s'en prendre aux normes, c'est facile et on peut tous tomber d'accord. Malheureusement, par cette brèche s'engouffre aussi une critique de la loi qui empêche, de l'impossibilisme légal, comme dirait Kaczynski en Pologne. Et donc une volonté de s'en prendre à la loi, au droit, à la justice, et donc à des fondements de notre démocratie libérale. Et là, c'est beaucoup plus préoccupant.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, continuez à nous écrire suite de vos messages qui nous disent depuis quand vous écoutiez l'émission. Bonjour à Hussein à l'écoute à Goma en RDC depuis 2012, à Mohamedou Mustapha à Pikrine au Sénégal, auditeur d'une semaine d'actualité depuis 18 ans. Mes salutations à Archiduc Théodore, à N'Djamena, à l'écoute depuis 14 ans, à Émile, depuis 11 ans à Parakou, à Malik, qui nous suit depuis le début de l'émission à Gué Diawaye, au Sénégal. Enfin, un clin d'œil à Fabrice, avec nous depuis une dizaine d'années, dit-il, au Cameroun. À toutes et à tous, de chaleureux remerciements pour votre fidélité.
Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Et nous allons partir pour l'Afrique. Anne-Lorraine Bujon, un tribunal rwandais a rejeté mercredi la demande de restauration des droits civiques de Victoire Ingabire, figure de l'opposition au président Paul Kagame. Une décision qui l'empêche de se présenter à la présidentielle du 15 juillet prochain. Kigali, Lucie Mouillot.
Pour les juges de la haute cour, Victoire Ingabire ne remplit pas les conditions exigées pour la réhabilitation de ses droits civiques et politiques. Une occasion manquée pour le Rwanda, affirme l'opposante, présidente du parti non autorisé d'Alpha Umurinzi et libérée par grâce présidentielle en 2018.
C'est une grande déception parce que je m'attendais quand même que la loi allait être respectée. Mais c'est dommage que la haute cour du Rwanda décide de ne pas dire la loi. Je continue mon combat pour l'instauration de la démocratie au Rwanda, pour un état de droit au Rwanda, pour les droits de l'homme dans mon pays.
Victoire Ingabire ne peut donc pas se porter candidate à l'élection présidentielle du 15 juillet prochain pour affronter le chef d'État Paul Kagame, au pouvoir depuis 2000 et investi le week-end dernier par son parti, le Front Patriotique Rwandais, pour briguer un quatrième mandat.
Si on est dans un état où il n'y a pas un état de droit, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir les élections libres et transparentes? Parce que maintenant, ça prouve que les élections qu'on va avoir maintenant, elles vont être exclusives. Parce que si l'opposition est toujours exclue à cause de la justice, ce n'est pas signé de la démocratie.
Pour l'instant, le député Franck Habineza du Parti Vert est le seul candidat déclaré face au président Paul Kagame. Après la décision de la haute cour, Victoire Ingabire affirme vouloir explorer des possibilités d'appel auprès de la justice régionale.
Notez qu'au Gabon, le très attendu dialogue national commencera dans quelques 3 semaines. Le décret de convocation et d'organisation a été publié. Le rendez-vous se tiendra finalement du 2 au 30 avril prochain, 7 mois après le coup d'État militaire qui a fait, on le sait, chuter le président Ali Bongo. Toutes les couches de la société vont se rassembler pour jeter les bases d'un Gabon nouveau, disent les autorités. Terminons, Anne-Lorraine, notre voyage africain au Sénégal. L'opposant numéro 1 du pays, le fondateur du parti dissous PASTEF, Ousmane Sonko, et son fidèle lieutenant et candidat à la présidentielle du 24 mars, Bassirou Ndiomaye Faye, ont donc été libérés jeudi, juste avant minuit. Le reportage de notre correspondante Léa Lisa Versterhoff devant la prison de Cap-Manuel.
Un premier cri de joie qui retentit à l'annonce de la libération des deux opposants.
Bah, c'est notre président qui est libre et nous sommes contents aussi. C'est pour cela qu'on est ici. On a laissé tout ce qu'on fait, voilà.
Devant la prison du Cap-Manuel, malgré le vent et la nuit, une centaine de personnes déjà s'est rassemblée, comme Falora qui se sent.
En fait, comme le jour que le Sénégal avait remporté la CAN, on est trop contents.
Sonko et Diomaye chantent ceux qui arrivent de plus en plus nombreux pour accueillir le candidat à la présidentielle Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko à leur sortie de prison. Myriam est venue le plus vite possible de chez elle.
C'est la victoire de la justice, c'est la victoire de la démocratie sur l'injustice, sur l'oppression. Et nous sommes juste venus fêter ça. Cet homme, il ne méritait pas d'être en prison.
C'est quand même un souffle pour la démocratie sénégalaise. Un détenu politique qui a duré comme ça en prison, donc pour nous ça peut décrisper en même temps l'ambiance politique au Sénégal.
Finalement, juste avant minuit, démarre un véhicule avec à son bord, selon plusieurs témoins, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, dissimulés derrière des vitres teintées. Un jeune homme juché sur le pare-choc arrière brandit un drapeau du Sénégal. Le cortège, accompagné d'une foule de supporters, se met en branle. D'autres voitures arrivent, créant un embouteillage géant et une immense manifestation spontanée dans la capitale qui aura duré jusque très tard dans la nuit.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons revenir avec Anne-Lorraine Bujon sur le dossier justice ou réparation, le dossier de ce numéro du mois de mars. Je signale un article fort passionnant de Valérie Rozou sur le passé colonial belge. Il s'intitule « La mémoire respire, réparer le passé colonial belge ». Et je voudrais qu'on revienne donc sur l'article d'Antoine Garapon sur cette notion de justice restaurative.
Oui, alors il y a un lien visible et moins visible entre le texte de Valérie Rozou sur le passé colonial belge et le texte d'Antoine Garapon intitulé « D'autres justices », puisque l'un et l'autre ont été amenés à travailler sur ces formes de justice transitionnelle qui se mettent en place après des violences extrêmes ou des crimes de masse. Et donc le texte de Valérie Rozou, il est très intéressant parce qu'elle dit que cette commission du Parlement belge sur le passé colonial, on pourrait estimer qu'elle a échoué parce qu'elle n'a pas réussi en fait à rendre un rapport consensuel, et notamment parce que ils ont achoppé sur la question de la responsabilité collective, reconnaître les torts de la Belgique autrefois. Est-ce que ça implique de dire que les Belges aujourd'hui sont responsables ou coupables? Donc là, il y avait des questions trop difficiles pour qu'on trouve un accord, et notamment sur la question des excuses officielles. Mais pour Valérie Rozou, ça n'est sans doute un échec que en surface, dans le sens où ça a ouvert un débat, ça a permis d'entendre des voix, ça a permis de reprendre des questions qui doivent être reprises pour pouvoir progressivement être assimilées, en quelque sorte. Et Antoine Garapon, qui a aussi cette expérience d'avoir travaillé sur la justice transitionnelle, il écrit ce texte, je crois, fort d'une expérience plus récente. Il est magistrat et philosophe. Il a écrit un très grand nombre de livres sur la justice, sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, il travaille sur la question des abus sexuels commis dans l'Église et sur les formes de réparation qu'on peut proposer aux victimes d'abus sexuels. Et c'est pourquoi il milite pour d'autres justices. Donc il dit la justice formelle à ses limites. Elle n'a pas grand-chose à offrir aux gens qui ne cherchent pas la punition ou une sanction, la punition du coupable ou une sanction, mais qui cherchent à réparer une existence qui a été empêchée, à réparer une existence empêchée. Et donc, il parle de plusieurs autres formes de justice. Donc, il y a la justice restaurative, où on organise des dialogues entre victimes et personnes responsables, bourreaux. En tout cas, voilà, criminels en prison. Il y a des formes de justice transitionnelle, on en a parlé, comme la commission Vérité et Réconciliation. Il y a des formes de justice transformative. Et pour toutes ces autres formes de justice, Antoine Garapon utilise le terme de justice intégrale, que ce qu'on cherche là, c'est une justice plus intégrale qui prenne en considération la part de vie empêchée par le crime. C'est donc un très beau texte nourri de toute une expérience, de toute une vie de magistrat, et où, il faut le redire, il ne s'agit pas de remplacer la justice formelle ordinaire, mais bien de la compléter par d'autres formes de justice.
Merci Anne-Lorraine Bujon. Le dossier du mois de la revue s'intitule donc « Justice ou réparation ». On se retrouve le mois prochain, en avril, dans le magazine Idée. Pour parler d'Europe. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Et trois nouveaux messages pour conclure. Je salue Oxence qui nous écoute depuis 2011 à Borgou, au nord-est du Bénin. Amadou Anouakchott avec nous depuis 19 ans. Et un salut à notre confrère Peter Dogbe à Lomé qui nous a écrit ceci. Avec la suppression de l'émission « Vous allez faire mal à mon oncle », ça fait près de trois décennies, c'était l'époque des cassettes. Il a enregistré plusieurs des émissions qu'il réécoute maintenant à la retraite. Continuez à nous dire ce que vous pensez de l'émission et depuis quand surtout vous l'écoutez. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idée, où il sera question de la vérité, avec la philosophe italienne Gloria Origi. Elle vient d'écrire un essai qui s'intitule « La vérité est une question politique ». Idée demain dimanche à 17h10, temps universel, 18h10, heure française. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.